I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle est à la fois chanteuse, récompensée aux Victoires de la Musique, comédienne, humoriste et désormais coach dans l'émission The Voice sur TF1. Depuis 10 ans maintenant, Camille Lelouch déploie ses multiples talents à la télé, sur scène ou encore sur les réseaux sociaux. À 37 ans, elle a décidé de raconter ce parcours assez inattendu dans un livre « Tout te dire » sorti le 6 mars. Elle y décrit des périodes difficiles de sa vie, ses problèmes d'alcool, quand elle était serveuse et qu'elle rêvait d'une carrière artistique. Elle raconte aussi les violences qu'elle a subies, adolescente, de la part d'un ancien petit ami et qu'elle a longtemps gardé pour elle. Camille Lelouch a accepté de rencontrer Barbara Gouy pour retracer son parcours au micro de Code Source.
Je rencontre Camille Lelouch dans un café du 11e arrondissement de Paris alors qu'elle est en pleine promotion de son livre. Il est sorti la veille de notre rendez-vous. Camille me rejoint, épuisée par les interviews, mais elle reste souriante et n'hésite pas à ponctuer nos échanges de quelques blagues. Rapidement, le tutoiement s'impose. Dans son livre, elle raconte les moments les plus difficiles de sa vie et dans certains passages, elle s'adresse directement à sa fille, Alma, qui est née en octobre 2022. Camille Lelouch a 37 ans. Elle est née le 10 juin 1986 et elle grandit à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Elle a un grand frère et ses grands-parents viennent 3 à 4 fois par semaine chez elle, car ses parents travaillent beaucoup.
J'ai grandi dans l'amour absolu, dans les goûters d'anniversaire, le piano, la peinture, les activités avec ma mère, mes grands-parents, tout le temps, on allait dans les parcs. Enfin bon, c'était une super enfance, quoi. Je souhaite avoir cette enfance-là à tous les enfants.
Quand elle a 4 ans, Camille commence à apprendre le piano. Sa famille l'emmène aussi voir des spectacles et elle se passionne rapidement pour le chant.
Mes premiers souvenirs liés au chant, c'est quand tu regardes les spectacles avec tes parents de village vacances, quoi, tu vois. Et j'ai dû être vraiment subjuguée par une prestation. Déjà, tout ce qui était scène, de voir une femme sur scène avec des très beaux cheveux, un beau maquillage, chanter, danser avec des paillettes, tout ça, c'est quelque chose qui m'envoûtait, quoi. Je savais pas pourquoi, comment, mais je savais que j'avais envie d'être là, moi aussi, quoi.
Quelques années plus tard, Camille avoue à sa professeure de piano que son rêve n'est pas d'être pianiste, mais bien d'être chanteuse. À 15 ans, sa mère la pousse à faire des petits boulots, en dehors des cours, pour pouvoir se faire de l'argent de poche. Et après le lycée, elle arrête assez vite les études, commence à chanter dans des piano-bars et devient serveuse à temps plein pour gagner sa vie.
Tu sers des gens de plein de milieux, des femmes, des hommes, seuls, gentils, un peu cons, un peu de tout, quoi. Tous les gens qui venaient, je servais beaucoup de grosses tables, ils regardaient toujours à la vitre avant pour vérifier que je sois bien là, parce qu'ils savaient qu'on allait passer un bon moment, quoi. Et moi, j'adorais parce que j'allais me habituer, on rigolait. Et puis, ça m'a appris aussi à découvrir que je pouvais m'abîmer mon corps avec des sciatiques, des tendinites, des trucs. Enfin, c'est un métier qui est très, très intense. Et je trouve qu'il est très, très dur.
En 2009, à 23 ans, Camille change de restaurant. Elle commence à travailler à la Terrasse des Archives, à Paris, dans le quartier du Marais, qui compte parmi ses clients de nombreuses personnalités, du cinéma et de la télévision, avec qui elle rigole pendant son service. En 2010, après plusieurs auditions ratées, elle passe le casting pour la prochaine saison de La Nouvelle Star, mais elle ne parvient pas à convaincre le jury. Camille continue donc ses prestations dans les piano-bars, et c'est à cette période-là qu'elle se met à boire de l'alcool.
j'avais la phobie de vomir pendant très longtemps. Et donc pour moi, boire, ça voulait dire vomir. Tu vois, donc j'ai pas bu pendant très longtemps. Et en fait, un soir, il y avait un bar où on chantait et ils m'ont dit, il y a des shots. J'ai dit, mais c'est quoi des shots? Même à 25 ans, je savais pas ce que c'était. Donc j'ai dit, bah, je vais goûter. Et j'en ai pris deux. Et en fait, j'ai vu que ça désinhibait, mais dans le bon sens, que comme tu, je buvais jamais, je me suis trouvé, ah, j'ai trouvé ça trop rigolo. Puis dans un shot de shot, et puis après un verre de vin, ah, je commence à aimer ça. Après première cuite, le corps commence à s'habituer, et puis après, tu finis par boire tout le temps. Quand tu bois comme ça et que tu rentres, je pouvais pas me coucher si j'étais pas un peu pompette, quoi. Donc les fois où ça arrivait, ce qui était rare, je pouvais pas dormir, quoi, si j'avais pas bu. Pareil, si je faisais mes petits concerts, j'étais pas trop connue, j'étais jamais à jeun. J'ai jamais dit je suis alcoolique, parce que c'est pas le mot, mais c'est de l'alcoolisme. Et du coup, je me suis laissée dépérir. C'est une période de ma vie où j'ai vraiment dépéri. Je me suis retrouvée à me laver une fois sur trois, je sortais plus de chez moi, j'étais endettée, j'allais plus travailler, parce que j'étais tout le temps malade. La vaisselle empilée, les poubelles, alors que la poubelle, je faisais genre 2 mètres, elles étaient juste là, j'étais au rez-de-chaussée. T'as plus de fierté, t'as plus de rien. J'étais une loque, quoi. Je faisais plus rien, quoi.
Camille reste souvent chez elle et donne de moins en moins de nouvelles à son entourage. Un jour, sa mère, qui commence à s'inquiéter, décide de se rendre chez elle sans la prévenir.
Je payais plus mon loyer depuis 3 mois parce que j'avais plus l'argent, parce que j'allais plus travailler. Ma mère le savait pas. Et en fait, elle a sonné à 7h du matin. Et elle est venue avec une amie à elle. J'avais honte. Et en fait, j'étais mal en point. J'étais horriblement mal. J'étais au bout, quoi. Elle était choquée. Elle s'est dit, c'est pas ma fille, quoi. J'ai vu dans son regard la peur. Donc ça m'a fait déjà beaucoup de peine. Et l'alcool, ça l'a traumatisée. Ma mère, elle déjà le déteste. C'est pas du tout... Elle boit pas, donc... Elle a vu le truc. Elle a dit, OK, on rend l'appart, tu reviens à la maison.
À plus de 25 ans, Camille retourne vivre chez sa mère, à Vitry-sur-Seine. Elle tente de se sevrer de l'alcool et son état s'améliore petit à petit. Elle commence à s'ennuyer, alors elle a l'idée de poster des vidéos d'elle sur les réseaux sociaux pour faire rire les autres.
Salut, c'est la cousine de Kim Kardashian.
Dans la toute première, elle joue le personnage de la cagole, qui serait une cousine de la star Kim Kardashian.
Ben, j'aimerais c'est ma cousine Kim, et puis Chloé et l'autre, je me souviens plus. Allez, bye bye.
Ça a buzzé. Mais buzzé, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que les gens pensaient que j'étais une vraie cagole. J'avais mis du rouge à lèvres rouge, je parlais comme ça. Bon. Ça a bien marché. Et après, j'ai commencé à faire plein d'autres personnages qui ont bien marché aussi.
Dans ces personnages, il y a notamment une femme battue par son mari, qu'elle appelle Lenny.
Avant, mon Lenny me disait tout le temps, je t'aime. Mais bon, c'était pas non plus quelque chose de sincère, je pense. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Et lui, il faisait que ça à côté.
En quelques jours, elle est de plus en plus suivie sur les réseaux sociaux. Et grâce à sa popularité, elle réussit à décrocher une date pour organiser un mini-concert au réservoir, une salle avec un bar qui peut accueillir jusqu'à 350 personnes près de la Bastille. Elle annonce la date sur Internet en espérant pouvoir compter sur sa nouvelle communauté pour venir assister à son premier vrai concert. Le soir même, ça fait environ un mois qu'elle est rentrée chez sa mère et qu'elle n'a pas bu d'alcool. Le stress commence à monter.
Une demi-heure avant, je me suis dit, OK, en fait, je vais aller chanter, mais je suis à jeun. Et j'étais avec un ami et je commence à faire une espèce de malaise, un peu surfroide, en fait, de manque, en fait, en train une crise de manque. Il m'a dit, mais je vais rien te donner. Ah, j'ai dit, mais vaut mieux pour toi que tu me donnes parce qu'en fait, je vais pas tenir. C'était vraiment comme une crise de manque. Comme un drogué qui a besoin de sa dose, quoi. Et j'avais jamais eu cette sensation-là. Au bar, je cherchais quelqu'un et je me retournais, il n'y avait personne pour me servir. J'aurais dit, donnez-moi un shot, quoi. Juste un shot. Je n'ai pas eu le shot. Et horrible. J'avais la jambe qui tremblait très très fort, donc j'ai dû mettre un espèce de comme un drap noir parce que c'était un clavier, c'était pas un piano à queue à l'époque. Je pouvais pas me permettre ces demandes. J'avais un clavier, donc j'ai dû mettre un voile noir. Et pendant sur 45 minutes de concert, il y a eu 15-20 minutes où j'avais la jambe qui tremblait et personne voyait. C'était la jambe droite de la pédale, donc je devais faire tout du pied gauche, ce qui n'était pas du tout facile. Et sur scène, j'étais en nage, j'ai jamais autant transpiré, je suis pas du tout quelqu'un qui transpire beaucoup. J'étais mais en nage et en sortant, j'ai eu une nausée de comme si t'avais une gueule de bois, mais sans que j'avais pas bu. Donc tout le corps se rappelait de cet état dégoûtant en fait. Et je me suis dit, mais dans ma vie, je n'ai jamais envie de ressentir ça à nouveau, je trouve ça sale quoi.
À la fin du concert, Camille rentre chez elle, dégoûtée par sa performance. Elle retourne travailler à la terrasse des archives et là-bas, Camille sert régulièrement Rebecca Zlotowski. Un jour, en 2012, la réalisatrice du film Belle Épine, avec qui elle s'entend bien depuis plusieurs années, lui propose de passer un casting pour son prochain long métrage.
Je servais Rebecca Zlotowski depuis un moment. Hein. Et puis un jour, elle me dit « Écoute, j'ai un petit rôle pour toi, fais un petit truc. Bon, là, je suis en train d'écrire, donc voilà. Mais quand tu auras les castings, je te tiens au courant. » Enfin, au bout de deux mois, j'ai le directeur de casting qui m'appelle, qui me dit « Je veux te voir pour les essais. » En fait, je me rends compte, c'est pour le second rôle féminin de, bah, du film. Et je suis restée 2 heures en casting, le premier casting. Et donc, 2 mois après, j'ai fait des essais et il y avait Rebecca. J'ai senti un peu le doute dans son regard et en fait, on m'a appelé 2 ou 3 mois après pour me dire « c'est toi, quoi ».
Le tournage de Grand Central commence en mai 2012 et il se déroule en Ardèche et en Autriche. Dans une scène du film, Camille est dénudée et se rase la tête dos à la caméra. Le film sort l'année d'après avec à l'affiche Tahar Rahim ou encore Léa Seydoux. Il est nommé au Festival de Cannes en 2013 dans la catégorie Un certain regard et Camille Lelouch se retrouve à monter les marches du Festival de Cannes pour la projection du film.
Les marches du Festival de Cannes, c'était sublime. J'étais à côté de Tahar Rahim, de Denis Ménochet, Léa Seydoux, tu vois, Olivier Gourmet, donc c'est hyper impressionnant pour moi. Et à la fois, c'est extraordinaire, mais tu te sens pas à ta place, parce que tu es serveuse. Tu sais, je savais pas comment me poser, comment me tenir. J'avais les lèvres qui tremblaient de... J'avais un look qui était horrible. On m'avait dit surtout pas ça et tout, mais j'avais aucune notion. J'avais Léa Seydoux juste avant qui me dit « Tu devrais enlever tes boucles d'oreilles. » Elles étaient horribles, vraiment. Comme on m'avait rasé la tête dans le film, j'avais la repousse depuis 1 an et demi, quoi, 2 ans. Donc on a essayé de caler les cheveux comme on pouvait, mais c'était pas... Il y avait rien qui était très joli. Je les ai vite redescendus ces marches, ça vient instantanément. Parce que quand tu fais les marches de Cannes, tu te dis quand même il va se passer quelque chose. Quoi. On va me proposer des trucs, bah non.
Camille n'a pas d'autres propositions de rôle et elle retourne travailler au restaurant. Pendant le tournage de Grand Central, l'acteur Denis Ménochet lui avait conseillé de monter un spectacle d'humour. Elle se met donc à l'écrire avec l'aide d'un metteur en scène, Laurent Ginca, mais elle n'a pas envie d'abandonner le chant pour autant.
Il me dit « qu'est-ce que tu veux faire ?» Je dis « écoute, j'ai envie de chanter, faire rire... Faire pleurer. Elle me dit, ah non, faire pleurer en humour, c'est pas possible. Je dis, ah si, j'ai envie de faire pleurer dans un spectacle d'humour. Il me dit, bah, tu sais quoi, allons-y. Il me dit, c'est quoi ton rêve de salle? Je dis, bah, c'est faire l'Olympia. Il m'a dit, bah, tu le feras. Je dis, mais non, mais jamais de la vie. Il me dit, mais si, mais tu feras même les Zéniths. Mais voilà, ça, c'est. Je serai éternellement reconnaissante pour ça, pour la force qu'il m'a donnée dans un moment où j'en avais vraiment besoin, quoi.
En 2014, Camille, en même temps qu'elle écrit son spectacle, décide de passer le casting du télécrochet de TF1, The Voice. Elle se dit que c'est sa dernière chance de pouvoir lancer sa carrière de chanteuse et elle passe les auditions à l'aveugle. Les 4 jurys, Zazie, Jennifer, Florent Pagny et Mika, sont assis dans des fauteuils, dos à elle. Ils doivent appuyer sur un buzzer s'ils veulent la sélectionner. Camille choisit d'interpréter la chanson Papa Outé de Stromae. Et les fauteuils se retournent. Outé, papa.
Super, bah, en fait c'est la délivrance à ce moment-là, c'est « Ah super, je suis dans l'aventure, combien de temps, je sais pas ». Donc ça c'est ce que je me suis dit. Et puis après, bon, chaque étape était trop importante pour moi, donc c'est vrai que je souffrais beaucoup, tu vois, à chaque étape, parce que j'étais dans un truc de « si jamais je pars là, on va m'oublier », tu vois, donc fallait que je reste pour moi le plus longtemps possible. Et ça je le dis par contre régulièrement, c'est que je voulais pas gagner, j'en avais rien à faire de gagner, mais je voulais aller en demi-finale pour pouvoir faire la tournée, parce qu'avant ça t'accédais pas à la tournée.
Camille va jusqu'en demi-finale. Elle ne gagne pas le concours, mais elle participe donc à la tournée de The Voice. En mars 2016, Camille fait la première partie de l'humoriste Virginie Hoc au Casino de Paris. Le 5 novembre 2017, elle joue la première date de son propre spectacle de chant et d'humour qui s'intitule Camille en vrai au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris. Et elle n'annule jamais une seule date.
J'ai pensé beaucoup à mon grand-père quand il est décédé, que je devais faire le spectacle, là c'était très dur. Très 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 dur. Parce qu'il y avait plein de mots qui me faisaient penser à lui. Non, ça, je me suis effondrée à la fin. Les gens étaient très émus. Ils pleuraient beaucoup. Je lui ai vraiment dédié ce spectacle. C'était très, très dur. C'était comme mon papa, quoi. C'était vraiment mon papa, quoi. Mon grand-père, il m'aurait dit, va, monte sur scène, en fait. Mais surtout, les gens ont payé. Et puis les gens, c'est un peu triste, mais ils n'en ont rien à faire. Hein. Tu vois, t'as perdu quelqu'un, t'es malade, ils n'en ont rien à faire. Par contre, le fait que tu sois là et qu'ils le sachent au début ou à la fin, ils sont en admiration. Ils disent, ah ouais. T'es puissant à ce moment-là et tu vas chercher dans des ressources que tu n'utilises pas quand t'es en forme. Et donc, c'est encore plus puissant ce que tu donnes.
La tournée se passe très bien. Elle monte sur les scènes parisiennes qu'elle a toujours rêvé de faire, comme la salle Playel ou encore l'Olympia. En 2020, le Covid l'oblige à reporter ses dernières dates. Et à ce moment-là, Camille Lelouch a envie de revenir au chant. Elle fait écouter au slammer Grand Corps Malade une chanson qu'elle a composée il y a longtemps. Ce dernier l'aime beaucoup et lui propose d'ajouter des paroles aux siennes. Le titre en duo « Mais je t'aime » sort en juin 2020 et cartonne sur les radios.
Je t'aime, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux.
C'est quand même la première chanson que je sors en tant que chanteuse et c'est une... ça devient une hymne en plus dans une période où on en a besoin parce qu'on sort du Covid entre guillemets et puis après la victoire de la musique.
Mais je t'aime, Camille Lelouch et Grand Corps Malade. Félicitations.
C'est les premières victoires de toute ma vie et le mot victoire il est puissant chez moi, pardon. Alors je vais te le dire, je déteste pleurer et parler en même temps, c'est vraiment débile et ça m'arrive souvent, mais vraiment je suis tellement heureuse. Merci.
Ça, c'était absolument dingue, quoi. Puis c'est extraordinaire parce que on est dans des périodes difficiles, c'est compliqué. Et d'un coup, t'as cette délivrance avec cette chanson, tu t'entends en radio. C'est génial.
En parallèle, elle découvre qu'elle a des problèmes de fertilité. Elle fait congeler ses ovocytes en Espagne pour garder des chances d'avoir un enfant quand elle le voudra. Après le succès de son premier single, Camille Lelouch sort son premier album qui contient notamment la chanson « N'insiste pas » qui parle des violences conjugales.
N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas.
Quand on l'interroge sur cette chanson et sur le personnage de la femme de Lenny dans ses vidéos, Camille Lelouch dit en interview que la cause des femmes battues lui tient à cœur car des proches à elle en ont souffert. Mais deux jours après la sortie de son album, le 28 novembre 2021, elle révèle finalement dans l'émission 7 à 8 qu'elle en a elle-même été victime quand elle était adolescente.
C'est déjà les violences psychologiques tous les jours et physiques, ouais, tout le temps. Je sais pas, 3-4 fois par semaine. En fait, je ne vivais même plus.
Qu'est-ce qui pouvait déclencher sa violence ?
Le fait que j'ai pas envie de faire l'amour avec lui, par exemple. Donc ça a été des moments très violents. Puisque quand t'as quelqu'un de très costaud, t'as pas le choix, quoi.
Déjà, j'ai besoin de dire que c'est à moi que c'est arrivé. Parce que j'avais fait toute une promo où je dis que c'est arrivé aux autres. Et c'est un peu troublant parce que j'étais tellement fragile à ce moment-là, je savais que j'allais pleurer à chaque phrase. Je me suis dit, c'est mieux de le dire que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Et puis à un moment donné, je peux plus parce que je sais pas mentir, j'aime pas mentir. Et je voulais vraiment que ça soit... Je voulais me libérer de ça. Je me suis dit, peut-être qu'après... l'avoir dit, peut-être que j'arriverai à tomber enceinte. Et puis à ce moment-là, donc, j'avais rencontré quelqu'un. Et donc du coup, 2 mois après, je tombe enceinte. Ça, c'est fou. 2 mois après cette interview, je tombe enceinte. D'avoir ma fille, ça a été le bonheur absolu. Ça a changé tout. Ça m'a rendue heureuse. Je ne l'étais pas avant. Elle m'a stabilisée, elle m'apaise. En fait, elle est mon essentiel, donc... À partir du moment où elle est mon essentiel, j'ai rien besoin d'autre. Tout ce qui pouvait me contrarier avant, tout ce qui pouvait me vexer, me blesser de par ce milieu ou plein de choses que j'ai pas encore parce que malgré que je travaille, bon, tu vois, il faut un peu de temps et de patience. Et ben, elle m'a apporté tout ça.
Barbara, depuis que Camille Lelouch a témoigné des violences qu'elle a subies dans l'émission 7 à 8, est-ce que c'est plus facile pour elle de raconter ce qu'elle a vécu ?
Alors pas vraiment, quand elle a témoigné sur 7 à 8, Camille Lelouch a prévenu que ce serait la première et la dernière fois qu'elle en parlerait. Alors elle a quand même choisi de revenir dessus en détail dans son livre, mais elle ne veut pas se forcer à revivre l'horreur qu'elle a vécue à chaque interview. Elle préfère parler de ce que ça lui a apporté de positif d'oser partager son histoire.
Cette année, depuis le 10 février, Camille Lelouch est de retour dans l'émission The Voice, mais cette fois-ci en tant que coach. Qu'est-ce que ça lui fait de réintégrer cette émission ?
Elle m'a dit être très contente de refaire partie de cette grande famille. Elle garde un très beau souvenir de son aventure à The Voice. Et donc, revenir en tant que coach, c'est un véritable honneur pour elle aujourd'hui. En plus, elle a un statut un peu particulier parce qu'elle n'est pas une des quatre coachs que l'on voit sur les grands fauteuils rouges, mais elle est sauveuse de talents. C'est-à-dire qu'elle peut sauver les talents qui sont éliminés par les autres coachs pour leur donner une seconde chance dans une nouvelle équipe. Et une personne de son équipe atteindra directement la finale et pourra peut-être gagner The Voice. Donc, elle a un rôle un peu singulier et ça lui plaît beaucoup.
Merci Barbara Gouy, je rappelle que le livre de Camille Lelouch s'intitule « Tout te dire » et qu'il est édité chez Stock. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et réalisé par Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, mettez-nous des petites étoiles et un commentaire sur votre plateforme audio préférée, Spotify, Apple Podcast ou encore Deezer. C'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Parlez-en aussi autour de vous. Les podcasts du Parisien, c'est aussi Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi. Et puis Le Sacre, un entretien tous les mercredis avec un ou une médaillée d'or aux Jeux Olympiques et Paralympiques.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.